20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Par Toutatis. Aujourd'hui, l'archéologie vient de perdre un de ses plus grands esprits. Professeur au Collège de France, Christian Goudineau, incontournable spécialiste de la celtique et de nos antiquités nationales, vient en effet de nous quitter. Nous avions eu la chance de le côtoyer sur le terrain, dans le comité de rédaction de la revue politique de l'archéologie, dans l'émission surtout, où il évoquait à merveille la Gaule, Rome, César, Bibracte, son rapport remis à Michel Rocard, comme tant d'autres sujets. Bien au-delà du savoir, de la science et du sérieux, Christian était un de ces grands professeurs, plein d'humour, d'esprit. Ainsi, le magazine de l'archéologie de France Culture lui rend hommage au travers d'une découverte exceptionnelle, par essence celtique. Cela tombe bien, il faut parfois savoir prendre de la hauteur, de l'altitude. Or, ce que nous propose mon invité est une archéologie des cimes, en lien avec le ciel, les dieux, à plus de 1800 mètres, dans un décor par essence grandiose. Longtemps, les espaces montagneux ont été perçus comme des zones marginales, excentrées, reléguées. Et hormis quelques découvertes spectaculaires, dont la momie des glaces, Ötzi, elles sont encore loin d'être aujourd'hui le terrain d'investigation privilégié des archéologues. Au cœur des Alpes-Maritimes, dans le parc du Mercantour, loin des sentiers battus, vient d'être mis au jour un monumental sanctuaire celtique, avec son trésor grec, ses dépôts sacrificiels et son cortège de pratiques rituelles atroces, pour reprendre un mot de Christian Goudineau. Jusque-là, la trouvaille n'avait pas transpiré. Et voici 10 jours, un archéologue me contactait pour m'informer que Frank Sumera faisait actuellement de très importantes découvertes. J'ai instantanément sauté sur l'occasion. Frank Sumera, bonsoir.
Bonsoir.
Conservateur en chef au sein de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous œuvrez aussi dans le cadre du CNRS à l'université d'Aix-Marseille. Mais c'est sur le site de la Tournerie que vous fouillez tous les étés. Frank Sumera, comment cet édifice monumental a-t-il été découvert ?
Il s'agit en fait d'une découverte un peu ancienne, mais qui n'avait pas été tout à fait évaluée à sa juste valeur. Il y a une sorte de sport régional mis en place depuis le début du XXe siècle qui a consisté à recenser des enceintes de hauteur et qui a donné lieu au début du XXe siècle à la création d'une célèbre commission, la commission des enceintes. Or, celle-ci est née avec des archéologues de renom qui ont commencé à travailler dans les Alpes-Maritimes. Cette recherche a généré une tradition pour l'inventaire de ces structures de hauteur, enceintes ligures, enceintes gauloises, selon les gradients de la politique, puisqu'en fait, ces enceintes ont été très rapidement recensées par des militaires dans des optiques un peu guerrières, d'où tout un vocabulaire pour désigner ces enceintes, notamment par leur code d'altitude, ainsi qu'on le faisait pendant la guerre de 14, où les noms de combat prennent le nom de la code d'altitude.
La code 1800.
Voilà, la code 1800, par exemple, qui est un bon exemple. En l'occurrence, là, on a un certain nombre de sites qui ont été recensés dans ce contexte. La cime de la Tournerie a été recensée par le commandant Bretodeau en 1995 à l'occasion de prospections qui s'inscrivaient dans cette tradition.
Christian Goudineau s'était intéressé à ce sujet ?
Christian Goudineau, oui, qui avait été conservateur de l'archéologie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait identifié l'importance de cette thématique, puisque c'est aussi à l'occasion de ces travaux initiés au XXe siècle qu'était né le mot anhistorique, et donc qui traduit en fait le fait qu'on a des structures dont on ne sait rien, à part qu'elles sont sur des sommets et qu'elles ont à peu près les mêmes formes. Or, Christian Goudineau avait essayé de lancer un programme de recherche et à cette occasion avait fouillé l'une de ces enceintes qui correspondait pas à un sanctuaire, mais à un habitat. Il s'agit du site de Tarado, bien connu.
J'imagine que nous sommes dans un paysage grandiose.
Alors c'est tout à fait exceptionnel. On a une vue. Alors le site présente la caractéristique de permettre de voir des chaînes de montagnes qui se situent à plus de 20 km. On voit ainsi le massif de l'Argentera qui est en Italie à 22 500 km. On voit aussi le mont Caplet qui correspond. On ne voit pas le mont Bégaud qui est celui de la vallée des merveilles, mais le mont Caplet est immédiatement à côté. Donc qui nous donne l'idée de la proximité de cet autre site guerrier, puisqu'en fait, la Vallée des Merveilles, c'est avant tout la représentation d'armes et de symboles de pouvoir, même si on est quelques siècles avant, puisque nous nous situons à l'âge du bronze. Donc c'est un site qui permet d'avoir une vue, on a vraiment l'impression de dominer le monde, mais en réalité, la spécificité, c'est qu'en fait, on peut approcher du site à moins de 50 mètres sans être vu. C'est-à-dire que c'est un site qui permet de voir les sommets les plus lointains, mais qui en revanche n'a aucune maîtrise sur l'environnement et donc ne peut pas avoir de valeur défensive. Il n'a pas non plus de valeur ostentatoire puisque il n'est pas vu dans un rayon de quelques kilomètres puisque et quand on se situe sur les montagnes qui sont visibles telles l'Argentera ou le mont Caplet, la cime de la Tournerie n'est qu'un point qui est à 1800 mètres d'altitude, donc il ne se dessine pas dans le paysage.
Pouvait-on penser découvrir du Gaulois à cette altitude, 1816 mètres exactement?
Alors, traditionnellement, en tout cas depuis quelques années, l'axe de la recherche vise à travailler sur les montagnes en cherchant, en traquant le pastoralisme. Et l'idée que la plus communément nourrie depuis une trentaine d'années, c'est de considérer que nous sommes sur une sorte de saltus, un lieu dédié au pastoralisme itinérant, mais en aucun cas une zone habitée. On a très peu d'indices de sites, on avait très peu d'indices de sites d'occupation. Et l'idée était plutôt de penser à l'itinérance et éventuellement quelques bergers perdus, mais loin de là de penser à l'existence d'une population importante dans ce secteur.
En tout cas, l'archéologie des cimes vit en lien, bien sûr, avec le réchauffement climatique, un véritable renouveau, contrairement à ce que je disais en début d'émission.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a deux changements d'axe de recherche qui se mettent en place. Si on regarde l'archéologie des montagnes des années 80, c'était les problématiques tournées autour de l'identification des peuples et l'identification des voiries et des axes de passage. Avec la découverte et le développement du paléo-environnement et notamment des recherches en lac, s'est mis en place une autre problématique autour de la question de l'impact de l'homme sur le milieu. Est né à ce moment-là un concept aujourd'hui validé qui est celui d'anthropocène que certains ont voulu faire remonter à l'âge du bronze. Donc dans cette logique, les recherches archéologiques de haute montagne ont souvent été bloquées, je dirais, enfin en tout cas se sont centrées autour des problèmes de paléo-environnement et d'impact d'homme sur la nature et particulièrement sur la construction des pelouses alpines de haute montagne.
En tout cas, on trouve plein de choses dans les glaciers.
Alors la grande nouveauté, c'est effectivement, je pense que ce réchauffement climatique, c'est celui qui a donné une impulsion aux recherches paléo-environnementales, qui a permis effectivement de travailler sur les lacs. Mais aujourd'hui, il donne une nouvelle orientation avec la fonte des glaciers qu'on peut bien entendu regretter, mais qui est pour les archéologues l'occasion de trouver des vestiges à plus de 3000 mètres d'altitude. Hein, c'est ce qu'on a trouvé dans les Alpes suisses, des vestiges de l'âge du bronze après fonte, où on a des objets organiques parfaitement conservés.
Des arcs et autres.
Des arcs et autres. Et ce phénomène est étudié un peu partout. Nos collègues canadiens font la même chose et ont des résultats tout à fait spectaculaires.
Franck Sumera, vous me parliez d'identification de peuple. Chez qui sommes-nous? Quel peuple gaulois aurait pu vivre dans les environs?
Alors, c'est toujours un peu difficile puisqu'en fait les noms de peuples dont nous disposons proviennent d'historiens ou d'ethnonymes définis postérieurement. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, on a le trophée d'Auguste qui marque un point d'importance sur la conquête des Alpes, indique qu'on a une tribu qui s'appelle les Sectini qui aurait donné leur nom à la rivière qui est à proximité du site de Roubion, qui s'appelle la Tinée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces peuples du Mercantour ont donné leur nom à des rivières. Et on peut donc raisonnablement penser que l'axe qui identifiait ces populations, c'est plus la rivière que le sommet.
Vous fouillez cet ensemble monumental de la Tournerie depuis plusieurs années. Comment se présente son architecture ? Vous me dites monumental.
C'est véritablement une architecture monumentale qui s'inscrit dans la durée et dont il est difficile de rétablir les phases aujourd'hui. Nous y arriverons, mais pour l'instant, c'est encore en cours d'étude. Mais globalement, le principe reste globalement le même. On a une enceinte qui mesure entre 1 mètre et 4 mètres de large dans la dernière phase, qui est dotée de tours monumentales, mais qui dont l'objectif est surtout d'assurer la cohérence de l'architecture et qui enferme une place qui fait environ 500 mètres carrés. Ce dispositif a été implanté au sommet de la cime de la Tournerie à 1816 mètres, pour être précis, et est entouré par un vaste fossé qui hélicoïdal, qui se referme deux fois sur autour de la cime et qui représente 4800 mètres cubes de roche, ce qui est colossal. Donc c'est des fossés qui font jusqu'à 4 mètres de profondeur, 4 mètres de large et curieusement, ce fossé a un profil qui évolue. À certains endroits, au début, à l'une des extrémités du fossé, la profondeur du fossé n'est que d'un mètre, et en fait, on a l'impression qu'il rentre dans la terre. Aujourd'hui, donc, son dégagement n'a pas encore été totalement réalisé, donc on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. On s'attend à de belles surprises. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, ce qu'on peut déjà établir, c'est qu'il est comblé aujourd'hui par les élévations des murs qui se situaient au sommet de la Tournerie. Ça veut dire qu'on a là un édifice, donc 4500 mètres cubes de roche, ça veut dire au moins 4500 jours hommes de travail pour le creuser, auquel il faudrait rajouter 4500 jours hommes pour reconstruire les murs qui ont servi. Donc là, on a déjà l'expression d'une architecture monumentale pour laquelle il a fallu recourir à de nombreux travailleurs.
Ce qui est étonnant, c'est la pérennité du site, qui semble très longue, plusieurs siècles.
Oui, alors cela, c'est effectivement ce que l'on commence à discerner depuis l'an dernier. On avait un véritable problème, nous avons toujours un problème de chronologie, qui est lié au fait que nous sommes sur une zone totalement sous-documenté, avec très peu de céramiques d'importation, que des céramiques de faciès locales, pour lesquelles on n'a pas ce qu'on appelle dans notre jargon d'archéologue de fossiles directeurs. Donc la datation de l'ensemble repose, un, sur le dépôt monétaire, qui lui peut être sans problème rattaché au contexte de la Deuxième Guerre punique, hein, qui est la première grande dévaluation monétaire qui a eu lieu en Méditerranée, et qui a amené effectivement un changement d'émission. Donc le dépôt, on pourra en reparler, mais est caractérisé notamment par la présence d'un grand bronze au trépied qui nous renvoie autour de 215 avant notre ère.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Franck Soumera, ce dépôt monétaire, un trésor dans la langue commune, comment était-il dissimulé ?
Alors, le dépôt avait été placé entre deux assises d'une construction d'une tour qui correspond à la dernière phase d'occupation du site. Et visiblement, il est coutume de le dire, mais là c'était totalement évident, dans un contenant périssable, probablement en cuir, la manière dont les objets, la proximité des objets, on avait vraiment l'impression qu'ils coulaient d'un même point. Et puis une dizaine de centimètres au-dessus, il y avait une côte humaine qui avait été placée ou pas, c'est difficile de le dire, mais en tout cas la répartition spatiale montre effectivement que on avait cette côte et ce dépôt.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces monnaies ont été visiblement sacrifiées.
De toute évidence, on a certaines monnaies, on porte des rayures qui sont volontaires, ont été rayées, d'autres ont été frappées, de sorte que l'effigie d'Apollon disparaît pour part, et une troisième sorte d'atteinte aux monnaies a consisté en la réalisation de tout petits trous qu'on n'avait pas perçus même en les photographiant la première fois. C'est en les observant au microscope électronique à balayage, donc en faisant un peu plus, c'est pas le microscope qui a permis de l'identifier, mais c'est le fait de porter plus attention à l'objet nous a permis de voir ces tout petits trous pratiqués dans les monnaies.
Franck Suméra, vous avez combien de monnaies et connaît-on des trésors de la sorte en milieu gaulois?
D'abord, en l'occurrence, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un trésor, mais plutôt d'un dépôt. Donc le trésor se caractérisant par le fait que on a essayé de cacher à un moment donné un potentiel monétaire. C'est souvent en situation de crise. Là, en l'occurrence, on a une série monétaire qui est, et généralement ça se traduit par des monnaies qui semblent synchrones. Là, en l'occurrence, on a un dépôt monétaire où il y a une grande variabilité dans les émissions qui laisse penser à une acquisition qui s'est faite sur le temps. Donc c'est plutôt l'idée de monnaie.
D'offrande, peut-être.
D'offrande, voilà. Il s'agit effectivement, nous pensons qu'il s'agit plutôt d'offrande, et ça renvoie à un concept que l'on connaît, qui existait dans les clergés, qui consiste en fait à rassembler, en tout cas dans la Rome antique, à rassembler les éléments, les offrandes dans un même lieu, ce qu'on appelle une favissa. On n'utilise pas ça pour le vocabulaire des études gauloises, mais c'est un concept qui nous renvoie vraiment à cela.
En tout cas, pourrions-nous envisager d'être dans une ère d'influence de Marseille ?
C'est véritablement la question, parce que en fait, ces monnaies qu'on appelle les grands bronzes au taureau sont relativement rares. Il y a depuis le début du XXe siècle, il y a eu seulement trois ensembles importants, on va dire trois trésors pour la communauté de la discussion. L'un qui avait été trouvé dans les environs de Marseille, le deuxième à Olbia, et celui-ci est le troisième. Celui qui a été trouvé au XIXe siècle a été complètement éclaté en Europe. On a quelques éléments au British Museum. Celui d'Olbia avait disparu, mais visiblement on l'aurait retrouvé, il avait été volé, et il a ressurgi ces dernières années. Donc en réalité, c'est le troisième ensemble de cette importance dans toute la région Provence. Et ces monnaies ont une spécialité aussi, une spécificité qui est de correspondre à un commerce de proximité. On retrouve des monnaies massaliotes dans toute la Méditerranée, mais les grands bronzes au taureau, on ne les retrouve qu'autour de Marseille.
Les vestiges que vous fouillez ne sont visiblement pas perturbés. Des armes, des bijoux sont encore au sol ?
Oui, c'est véritablement la grande surprise. C'est que on imagine très souvent que les vestiges en montagne sont fortement érodés. On invoque tout souvent le pouvoir négatif des moutons, à mon avis, qui est très surinterprété. En l'occurrence, on a un effondrement de l'architecture qui a protégé tous les sols, et on a vraiment l'impression de se retrouver au lendemain d'une rave party avec des vestiges qui correspondent à des éléments de vêtements. Et puis l'élément le plus spectaculaire pour un archéologue, c'est de trouver des lances dont l'extrémité était encore fichée en position verticale, ce qui veut dire que la hampe qui suivait le talon est resté en place. Et dernier élément, à l'aplomb de ces lances, on a trouvé des incisives qui nous laissent penser, comme à Gournay-sur-Aronde, on avait probablement des têtes fichées à l'extrémité des lances. Tête humaine, bien sûr.
Plus discrets sont les épées, les boucliers, mais il y a tout de même quelques indices.
Oui, en fait, on est très fiers. On dit qu'on a trouvé des boucliers, des épées. En réalité, c'est parce que nous sommes un peu prétentieux. La réalité, c'est qu'on a trouvé des fantômes d'épées et de boucliers. Quand on parle d'épées, en réalité, on a trouvé les petits éléments d'armature métallique qu'il y a à l'intérieur de la gaine qui protège l'épée. Mais on en déduit la présence de l'épée. Et pour le bouclier, ce sont les éléments métalliques qui vont décorer ou assurer la résistance du bouclier qui ont été découvert.
Hormis les monnaies grecques, l'ensemble du mobilier est-il local ?
Non. Alors, si la céramique est exclusivement locale, aujourd'hui, enfin en tout cas en l'état de nos connaissances, le mobilier métallique pourrait traduire des importations beaucoup plus lointaines, des productions italiques importantes. On a même un petit élément qui pourrait correspondre à un instrument de musique qu'on retrouve dans la Grande Grèce, dont j'ai oublié le nom à l'instant même, mais qui donc il va nous falloir approfondir cet élément, mais on a quelques éléments, on a de l'ambre, une perle en ambre, donc des éléments qui renvoient à des échanges assez lointains.
Et comment expliquez-vous la présence de clous de chaussures romaines ? Enfin, je dis chaussures, on devrait dire sandales.
C'est une véritable interrogation, puisqu'en fait, on a tendance à identifier ces clous de chaussures qui sont très caractéristiques. Hein. Ils ont une croix avec quatre petits points, donc on ne peut pas les confondre. On les identifie plutôt comme étant des objets de la période républicaine. Or là, nous sommes complètement certains de nos contextes. Donc, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques incertitudes sur la chronologie. Donc, ce dont on est certain, c'est que la dernière construction se situe autour de 215, qu'on a encore une phase d'occupation qui est postérieure, que l'on voit, mais des niveaux de sol. Mais on a du mal à, si on arrive au début du deuxième siècle, on va pas arriver au premier siècle. Donc ça pose un problème de chronologie qu'il faudra probablement qu'on étudie.
On note aussi la présence de nombreux restes humains, dont un crâne qui a été rôti.
Oui, ça a été tout à fait étonnant. D'abord, on avait donc fait il s'agit d'une mâchoire inférieure qui a été déposée volontairement à proximité du fossé, dans une petite fosse aménagée avec une céramique en dessous. Donc, on a vraiment affaire à un dépôt volontaire et qui présentait la spécificité d'avoir les dents de devant cassé et noirci. Dans un premier temps, à l'instar de ce qui avait été observé sur un autre site du Languedoc, on avait pensé que c'était une tête exposée qui avait subi les actions du gel et du dégel et qui aurait provoqué, donc les chairs étant protégeant donc les molaires qui sont restés intacts, le gel et dégel auraient pu provoquer des éclatements de l'émail des dents de devant. De manière un peu étonnante, notre collègue Patrice Méniel, archéologue que tous les proto-historiens connaissent bien, nous dit mais non, ça c'est ce qu'on a sur les moutons qu'on rôtit. Et Patrice Méniel, m'expliquant cela, sort de ses réserves une quantité de têtes de moutons, de photos, me montrant qu'effectivement, quand on rôtit effectivement une tête, le muscle rond de la bouche se rétracte, les dents deviennent exposées au feu, et alors que si la cuisson est bien maîtrisée, la chaleur ne porte pas sur les molaires. En revanche, les dents de devant subissent l'action du feu.
Il y a aussi la présence de restes humains dans des conditions de dépôt de fondation, pourrait-on dire, un premier sacrifice avant d'édifier le sanctuaire.
Tout cela est très très compliqué, cela renvoie à des concepts ethnologiques. Nous, ce qu'on observe, c'est que on a une centaine de restes humains qui se retrouvent partout sur le site, dans lequel on a du mal à savoir combien d'individus. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns. On peut pas dire combien. Difficile de dire si effectivement il s'agit de sacrifice. Là, on est pratiquement dans la question de la représentation du mental, et chacun se fera l'idée qu'il voudra du signal. Le signal étant qu'on a des restes humains éclatés sur le site.
Mais tout de même, que peut-on dire sur le traitement des corps humains, le cru, le cuit, sur ce sanctuaire donc du Mercantour?
Alors c'est un peu la question du cru et du cuit qui nous renvoie à Lévi-Strauss, et devient terriblement apparente sur ce site où on a donc, j'ai évoqué tout à l'heure, la côte humaine qui, elle, a priori, n'a pas subi d'action de la chaleur. Les dents trouvées à l'aplomb des lances qui n'ont pas subi d'action de la chaleur non plus. A priori, il s'agit de têtes exposées. La tête qui, elle, aurait été rôtie. Et puis, curieusement aussi, des ossements complètement calcinés qui renvoient à des pratiques d'incinération et qui, elles, ont été retrouvées dans l'un des foyers, associés à des éléments de préparation culinaire, une espèce de boulgour, de blé concassé et cuit, des noisettes qui elles aussi ont été calcinées. Donc c'est pas des reliefs de repas, on les a calcinées volontairement. Mais donc voilà, on se pose effectivement la question d'un traitement du décor qui pourrait être différentiel et peut-être pas pour selon les individus, peut-être qu'un même individu a pu avoir un traitement différentiel allant du cru au cuit.
En tout cas, Franck Sumera, votre sanctuaire s'avère aujourd'hui un cas particulier, un apax, puisque dans le sud de la France, les sanctuaires n'ont en général ni d'armes, ni de vestiges humains.
Oui, c'est bien connu, Christian Goudineau se plaisait à le rappeler, la Gaule du Sud n'a rien à voir avec la Gaule, et il le disait avec humour, puisqu'en fait il n'a jamais cessé de penser que les choses étaient très semblables et que c'est l'œil qu'on portait sur ces secteurs qui amenait à identifier plus de spécificités qu'il n'y en avait en réalité. La chose fait débat. Donc c'est tout à fait particulier, puisque en fait l'association, ce n'est pas tellement la présence de têtes qui se retrouve dans le Midi sur une dizaine de sites, mais l'association armes et restes humains qui reste exceptionnelle, puisque le seul site que l'on connaisse, c'est le site du Kélar, qui est un site important qui est du Languedoc, où effectivement on a des vestiges humains et des armements très très conséquents qui renvoient à ce qu'on appelle les cultes héroïques.
Vous évoquez la présence de banquets. Qu'est-ce qui illustre cette pratique par essence rituelle dans les mondes celtes, grecs et romains sur votre site?
Alors, en l'occurrence, les signaux sont très clairs. D'abord, l'analyse des restes animaux ne témoigne pas de pratiques bouchères avec des rejets liés à la préparation à de l'écarissage, mais plutôt à des restes de consommation liés à des reliefs de repas. À titre d'exemple, on a des restes de porc pour lesquels on ne trouve que les côtelettes et il nous manque les autres morceaux. Alors est-ce que la bête a été tuée ailleurs et est-ce qu'on a ramené les côtelettes, ou est-ce qu'on a tué la bête sur place et que seules les côtelettes ont été mangées? On aurait tendance à prendre plutôt cette dernière hypothèse, parce que concernant les porcs, on a trouvé quelques fœtus de porcs qui nous amènent à, enfin qui montrent que les bêtes ont été éviscérées sur place. Donc une partie de la viande est repartie ailleurs.
Peut-on reconstituer les pratiques rituelles au sein de ce sanctuaire gaulois? Doit-on y voir un sanctuaire guerrier voué à quelques divinités belliqueuses?
On pourrait être tenté de le croire, mais
on peut arriver.
La démonstration sera difficile. Ce qui est clair, c'est que les armes sont omniprésentes. Ce qui est clair, c'est qu'on a des restes humains importants. Maintenant, sacrifice, on ne peut pas l'évoquer. Difficile d'aller plus loin en l'état.
Franck Sumera, merci beaucoup. Et puis je signale que votre fouille se terminera en 2019 et que le site sera bien sûr ensuite mis en valeur. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Philippe Charlier évoquera Lucie, Cro-Magnon, Chopin et Hitler, du moins ce qu'il en reste.